et bienvenue sur Télé 1000 Vaches sur les ondes, l'émission de Télé 1000 Vaches sur Radio Récivière. Alors on est dans les locaux de Télé 1000 Vaches et je suis entouré de, allez combien, 6 membres actifs de Télé 1000 Vaches aujourd'hui. Donc il y a Franck, il y a Guillaume, il y a Arthur, il y a Russell, il y a Florent et Manon. Bonjour.
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 Alors, tout le monde n'a pas encore son micro. On n'a pas des micros pour tout le monde, donc on va se les passer un peu au cours de l'émission.
Salut.
Salut Arthur. Alors, dans cette émission, on va parler, de quoi on va parler ? On va parler de Télé 1000 Vaches, on va parler de ce que vous produisez, de ce que vous aimeriez produire. Et puis, pour cette première émission de la série, on va un peu présenter la structure, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas encore Télé 1000 Vaches. Après quoi, presque 40 ans, pas loin.
38. 38 ans.
Alors peut-être Franck, toi qui es le plus ancien salarié actif de Télé 1000 Vaches, peut-être tu peux nous parler un petit peu. Alors t'as pas connu les débuts, mais tu connais un peu l'histoire.
Oui, alors si on repart du tout début, c'est vrai que difficile d'en parler quand on n'a pas vécu ce moment-là, parce que c'est 86. Pour faire très très vite, a priori, Télé 1000 Vaches est né un petit peu dans... c'était donc une époque où il y avait ce constat qui était encore vraiment très très aigu de l'exode rural. Et pour ce que moi j'en ai compris, et ceux qui connaissent... qui ne sont pas là, pourront peut-être corriger. Mais donc il y avait en partie l'idée de... c'était très novateur, entre guillemets, de créer un média audiovisuel, de faire arriver des caméras sur le plateau. Hein. Je ne sais même plus s'il y avait une ou deux chaînes qu'on pouvait capter sur le plateau de 1000 Vaches. Et puis l'idée était de montrer ce qui se passait dans le coin et de se convaincre que ça valait le coup de vivre ici et de continuer à s'investir dans ce territoire qui est historiquement un territoire d'exode, quoi. Donc ça c'est les débuts. Et voilà, que dire, il s'est passé beaucoup de choses, mais c'est assez difficile d'en parler parce que, on n'y était pas, et on en a vu quelques archives. Il y a, dans tout ce qu'a fait Télé 1000 Vaches, il y a des trucs très légers, mais aussi très très vite, il y a des questions assez un peu plus importantes. On parle pas mal de ce qu'on appellerait, grosso modo, le développement local. Je sais que la création du parc naturel régional, par exemple, a été assidûment chroniquée par Télé 1000 Vaches, parce que ça a mis très très longtemps à se monter, et donc il y a toute une histoire du PNR, en tout cas de sa création, qui est racontée à Télé 1000 Vaches. La forêt, bien sûr, dès le début, qui est un gros sujet à Télé 1000 Vaches. Enfin voilà, c'est à la fois parfois très léger, voire humoristique, et parfois, on peut dire politique, très rapidement.
Alors pour comprendre aussi, on dit Télé 1000 Vaches, mais est-ce que Télé 1000 Vaches, c'est vraiment une télé, en fait ?
Alors au début, les moyens de diffusion, il me semble qu'il n'y en avait qu'un seul, hein, c'était ce qu'on appelait la télébrouette. Donc on se déplaçait, alors pas tout à fait avec une brouette, mais avec une voiture, avec le magnétoscope dans le coffre et éventuellement la télé même, je pense, des fois. Enfin ça se faisait chez les gens, dans des salles municipales. C'était dans des cafés, c'était des projections publiques. Encore une fois, une époque que nous, on n'a pas connue ici. Donc évidemment pas une télé qui était diffusée sur les ondes, même s'il y a eu un projet qui a failli voir le jour avec FR3 à l'époque, avec une histoire de téléchargement la nuit de Télé 1000 Vaches sur France 3 avec des magnétoscopes VHS. Enfin, c'était un sacré truc, mais ça n'a jamais vu le jour. Et puis ensuite on a eu les cassettes, les DVD qui étaient envoyés dans les mairies, dans les bibliothèques et compagnie. Donc une espèce de télépostale, on l'a souvent appelé comme ça. Et puis Internet qui arrivait du coup beaucoup plus tard. Je ne saurais même pas dire en quelle année Télé 1000 Vaches a commencé à être sur Internet.
Dans les années 2000.
Ah, 2000 quelque chose. Ouais. Et donc voilà, aujourd'hui on en est là, projection publique, évidemment diffusion sur Internet, il y a le canal de la ville de Limoges, la 7 à Limoges, qui diffuse de temps en temps, ils piochent quand ça leur plaît ce qu'on fait, ils piochent et ils diffusent des choses de Télé 1000 Vaches. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Et projection publique, Internet. Et puis donc le DVD, qu'on a arrêté de faire des DVD il y a un an, deux ans, presque deux ans. Le dernier doit être de novembre 2022, je crois.
C'est fini le DVD. Quoi,
c'est fini le DVD.
Alors, Guillaume, oui.
Et ça vaut peut-être la peine de préciser que les films qui sont sur Internet sont aussi ceux qui datent d'avant l'arrivée du site Internet. Il y a accès à tous les films qui ont été faits depuis la fondation de Télé Mille Vaches sur le site. Pas mal de personnes jouent le jeu d'ailleurs d'aller creuser les archives, soit de leur lieu, soit d'essayer de retrouver des anciens avec leur visage de poupin de l'époque. Il y a un outil qui permet notamment de naviguer dans les vidéos en fonction des localités sur une carte où on peut retrouver l'ensemble des vidéos en fonction de leur localisation.
Oui, je confirme moi-même, j'utilise encore pas mal l'outil pour préparer mes émissions. C'est vraiment pratique, c'est très riche. Il y a beaucoup de choses. Il y a quoi ? Il y a peut-être 300 heures de numérisé, quelque chose comme ça.
J'avais ça en tête. Davantage, j'ai plutôt le nombre de reportages. On est à 1500 ou 1600 reportages. Ça fait peut-être 300-400 heures, oui. C'est peut-être ça, oui.
Alors ça, voilà pour l'histoire de Télé Mille Vaches. Aujourd'hui, on peut faire un état des lieux. Donc, il y a eu, j'imagine, des tas d'étapes, des tas de configurations un peu du média avec plus ou moins de salariés, du bénévolat qui vient, qui va, des formes de diffusion différentes. On en a un petit peu parlé. On va pas rentrer dans le détail de toutes les versions de Télé Mille Vaches, mais on va peut-être parler de la version actuelle. Qui peut m'en dire un petit mot?
Bah, je vais continuer.
Allez.
Télé Mille Vaches est connu en tant que média. D'ailleurs, on n'a parlé que de ça pour le moment. Et en fait, depuis maintenant, ça fait un certain temps, hein, ça fait bien plus de 10 ans, que vraiment, Télé Mille Vaches marche sur trois jambes, quoi. Le média est toujours là, mais il y a aussi une activité très importante qui est l'éducation à l'image, en général, ce que nous, on appelle les ateliers. Donc ça consiste à faire des films avec des publics très 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 variés. Ça va d'enfants, de jeunes enfants en centre de loisirs ou à l'école, jusqu'à des personnes en maison de retraite, en passant par des gens qui viennent à nos activités parce qu'on les invite. On a fait des choses dans des centres de détention ou dans des maisons d'arrêt, dans les missions locales notamment. On va en parler plus en détail plus tard. Donc voilà, ça c'est un peu une autre jambe de Télé Mille Vaches, cette activité d'éducation à l'image. Dans les lycées aussi, on travaille. Et puis la dernière, c'est les prestations qui, si là, est peut-être un peu plus ancienne. Télé Mille Vaches a depuis longtemps fait des films sur commande, en fait. Et donc, clairement, c'est une activité économique comme une entreprise, en fait, hein, comme une société de production pour faire des films institutionnels pour des clients, quoi.
C'est ce qui permet de financer en partie, du coup, l'activité média, j'imagine, qui ne doit pas être très rentable.
Non, effectivement, les deux, hein, les ateliers, l'éducation à l'image amènent de l'argent et les prestations amènent aussi de l'argent. Et c'est sûr que le média en gagne un petit peu en tant que tel. On reçoit des financements pour le média, mais il est effectivement financé par les deux autres, ouais.
Alors, vous êtes combien ? Parce que là, on a dit autour de la table, vous êtes 6, maintenant 7, même, une nouvelle personne qui est arrivée. On est combien à Télé Mille Vaches ? Dans cette grande maison ? Parce qu'on n'a pas dit, mais c'est carrément une maison.
C'est difficile à dire parce qu'il y a déjà beaucoup de passagers, ce qu'on appelle des passagers, donc que ce soit des stagiaires ou des services civiques. Parfois des stagiaires, d'ailleurs, même de 3e, qui restent une semaine. Donc ça change un peu tout le temps. Je dirais qu'en salarié, on est 5. C'est ça, un truc comme ça. Et en ce moment même, il y a 2-3 services civiques. Voilà. Donc ça monte à 8.
8, et puis ouais, ça peut même monter encore plus 8, quand il y a des stagiaires. Ouais, ouais. Donc ça va, vous n'êtes pas trop à l'étroit dans cette...
Ça met de l'ambiance.
Dans cette humble demeure. Ouais. Donc voilà, donc vous êtes... on a dit le nombre, et puis comment ça s'organise du coup? Alors comment vous travaillez?
Alors, pour faire des reportages?
Ouais, par exemple.
C'est assez simple, c'est difficile à raconter. Chacun vient avec des idées, hein, de ce qu'il a envie de faire. On se réunit toutes les semaines, le mercredi matin, et on parle à la fois des nouvelles idées, de comment on va les réaliser, des angles qu'on va adopter. on débat hein, pour savoir comment on traite tel ou tel sujet, et puis on s'organise, on monte des équipes de tournage, il faut quelqu'un à la caméra, quelqu'un qui va être plutôt la journaliste ou quelqu'un qui éventuellement qui est là pour prendre le son de façon indépendante. Enfin bref, on organise notre tournage et puis bon, bah, chaque film, chaque reportage suit une espèce de jeu de loi. Il passe d'un projet à un tournage, à un début de montage et puis à une diffusion. Enfin voilà, il y a tout un parcours. Et qu'on se coordonne tous les mercredis matins pour voir comment ça avance. Et puis sinon, bah, chacun travaille soit un peu seul, soit un peu en équipe de son côté, sachant que du coup, on a beaucoup d'autres choses à faire aussi à Télé 1000 Vaches qui nous occupent pas mal et que finalement, le média occupe une partie du temps.
Mais pas tout le temps.
Mais pas tout le temps. Et puis comme on est en autogestion, donc toute l'organisation de toutes les activités de l'association s'organise aussi de façon hebdomadaire. On se voit à un autre moment. C'est plutôt le lundi où on s'occupe un peu de toute la gestion courante de l'association qui représente beaucoup de choses en fait. Hein. Russell a quelque chose à dire.
Oui, je veux dire que c'est cool parce que c'est assez ouvert parce que moi, vous pouvez peut-être vous entendre que même avec mon accent parisien, je ne viens pas de le coin. Moi, je suis venu en journée avec des idées pour faire des reportages. J'étais accueilli très bien. Donc, je veux dire que c'est plutôt ouvert pour les gens de venir faire les reportages. C'est ce qu'on veut. Je peux dire, Télé 1000 Vaches, si je suis correct là. Ou peut-être c'est juste moi qui t'ai bienvenu.
Alors justement, comment on fait? Alors si on ne fait pas partie ni des permanents, ni des passagers, disons, qui restent à Télé 1000 Vaches au moins plusieurs jours, comment on fait si on a envie de... Est-ce que c'est possible de faire un reportage avec Télé 1000 Vaches?
Oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça. Il y a aussi des gens qui sont là parce qu'ils font ça, du bénévolat, ce qu'on appelle des reportages participatifs, on peut appeler ça comme ça. Et voilà, par exemple, il y a quelques semaines, quelqu'un est venu, quelqu'un qui était en Algérie et qui a dû partir quand il était enfant, et il a envie de faire un film sur les anciens combattants qui sont encore vivants dans le coin. Et du coup, il est venu proposer ce projet, qui était un beau projet, et on est en train de le réaliser avec lui. Voilà. On l'aide. Alors, des fois, il y a des gens qui viennent, ils ont une idée, mais ils ne savent pas du tout faire de film. Parfois, alors c'est le cas de ce monsieur. Mais par contre, il a plein d'idées, il a plein de références dans sa tête, il est cinéphile, c'est assez agréable. Mais Russell, par exemple, lui, sait tout faire de A à Z, même la musique.
Mais c'était même moi la musique au début.
D'accord. Alors, le générique, c'était une de tes créations, ouais, c'est ça. D'accord.
Musique de news.
Tout à fait.
Ouais, et pour donc là, on parle d'un moment spécifique donc, pour les gens qui auraient envie de connaître Télé 1000 Vaches, de copier des cassettes, de faire un reportage avec nous, de en fait n'importe quoi qui ait un lien avec l'audiovisuel. On est ouvert le mercredi après-midi à partir de 14 à 17 heures. C'est quand même mieux d'appeler avant pour prévenir de sa venue, mais on reçoit tout le monde et donc ça. C'est la porte d'entrée si on veut faire un reportage, mais aussi si on veut faire n'importe quoi concernant l'audiovisuel. On prend rendez-vous avec nous et on vient le mercredi après-midi. Et c'est comme ça que c'est comme ça. Et puis on vient une fois ou on vient 50 fois pour faire ce qu'on a à faire. Il se trouve que par exemple là, en ce moment, à l'heure où on parle, alors on est le matin, mais il est venu en avance. Il y a Léo qui travaille à Ambiance Bois, qui est venu faire un montage pour faire un tuto sur une grue de chantier. Voilà, donc vraiment, c'est pas que pour faire des reportages. On peut venir à Télé 1000 Vaches pour plein de raisons. Enfin, les portes sont ouvertes.
Voilà. C'est un centre de ressources aussi sur ce sujet technique et peut-être avec un accompagnement aussi de la part des salariés ou des passagers, c'est ça?
C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut venir faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le média Télé 1000 Vaches et on reçoit cette attention ou cette assistance le mercredi.
Sachant que c'est souvent dans une ambiance d'entraide et de débrouillardise où si quelqu'un arrive avec une caméra que nous-mêmes on n'a jamais touchée en disant « j'ai l'impression que vous saurez peut-être me dire un petit peu plus comment l'utiliser », on va regarder ça ensemble et on avancera autant qu'on est capable d'avancer avec les limites de chacun et chacune en fonction de qui a pu se rendre disponible pour aider.
Ben voilà, donc n'hésitez pas, poussez la porte de Télé 1000 Vaches. Alors le mieux peut-être c'est d'appeler avant.
C'est mieux d'appeler avant, donc pour être sûr de trouver quelqu'un. 05 55 67 94 04. Et donc c'est le mercredi de 14 à 17 heures, les ateliers ouverts ça s'appelle. Vous avez toutes les références sur le site internet.
Voilà, la petite horloge de Russell qui nous indique qu'on passe à une nouvelle séquence de cette émission. On a fait un peu le tour, là, je pense, de Télé 1000 Vaches. Alors, peut-être qu'on va revenir sur un des aspects dont tu as parlé, Franck, qui sont les ateliers, pour faire un petit focus là-dessus. On a Guillaume, qui a été longtemps responsable du pôle atelier, mais qui est revenu pour nous en parler aujourd'hui.
Voilà, je m'en fais ambassadeur. Je remplace Maud, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais qui aujourd'hui gère ce pôle d'activité, on pourrait dire, à Télé 1000 Vaches. Donc, Franck parlait d'éducation à l'image, au sens large. C'est vrai que ça peut être des ateliers aussi bien d'ordre, comment dire, créatif, des films de fiction, des films d'animation, que des choses qui se rapprochent plus d'une approche assez documentaire ou journalistique de l'audiovisuel. Ce sont des ateliers que l'on va pouvoir mener, comme le disait Franck, dans des milieux et auprès de publics qui sont très divers. Jusqu'à maintenant, la logique a plutôt été de faire quelque chose qui soit à la carte, en fonction des moyens, en fonction des milieux dans lesquels on va, des attentes, d'essayer de construire des formats vraiment sur mesure par rapport aux attentes et aux envies de découverte des gens qu'on a en face de nous.
Donc en gros, si je suis une structure ou une école, un centre de loisirs, faut contacter Télé 1000 Vaches et on voit comment on fait, c'est ça ?
C'est ça, il y a une adresse mail spécifique qui est donc atelier au pluriel @télé1000vaches.net, mais aussi en appelant au numéro de téléphone qu'a précisé tout à l'heure Franck. Voilà, il y a tout à fait moyen de rejoindre l'une ou l'autre des personnes de cette petite équipe, sans souci bien évidemment.
Alors je crois que tu voulais nous parler plus précisément d'un atelier qui sait faire ou qui se fait en ce moment.
C'est un atelier qui s'est fait. C'était un exemple qui nous semblait intéressant à présenter dans le détail, qui a eu lieu à la mission locale de Guéret, que vous pouvez trouver sur le site internet, qui s'appelle « Engagez-vous ». C'est un film qui a été fait donc avec des personnes qui sont à la mission locale, auprès de l'espace de vie sociale plus précisément de la mission locale, qui est une sorte de lieu autogéré et par des employés de la mission locale et par des adhérents de ce service, afin d'offrir à ces jeunes un lieu d'expression, de découverte. Et là, en l'occurrence, nous, on venait avec l'idée à la fois de leur montrer les arcanes de la réalisation d'un film, ici plus précisément d'un roman photo, de venir s'exprimer sur un sujet un peu particulier qui était celui de l'engagement.
J'ai quelques modifications à y apporter.
Il n'est pas d'usage de...
Faire confiance aux figures d'autorité quoi qu'il arrive ? Comme si on n'avait jamais rien à leur reprocher. C'est vraiment comme ça que vous voulez que je devienne quelqu'un de responsable.
Ce contrat est d'une grande sagesse. Il a été établi au fil des générations.
Et ma génération va y mettre sa contribution. Il y a des choses bien, hein, mais par exemple, aller au bout de mes formations et trouver un travail, ok. Mais en me donnant le droit d'évaluer l'environnement de ce travail, de voir s'il a du sens par rapport à mes valeurs.
Et si ce n'est pas le cas ?
Il n'y a pas mort d'homme, j'évoluerai. Et je chercherai une autre voie.
Voilà, donc ce petit extrait permet d'illustrer là quelque chose qui était assez dichotomique dans ce film, qui était... En début d'atelier, on a proposé à l'ensemble des participants de réfléchir à la notion d'engagement, de voir quels étaient le type d'engagement auquel ils étaient soumis, que ce soit volontairement ou non dans leur vie, arriver à faire peut-être le distinguo entre ce qui est de l'ordre de l'engagement et ce qui est de l'ordre d'une sommation un petit peu plus verticale, et pouvoir à partir de là avoir un espace d'expression sur ce sujet. Et s'il nous semblait intéressant de pouvoir parler de ce film-là, c'est que, en fait... Sur les 5 ou 6 jours d'atelier, là j'ai un doute, qu'a duré donc la réalisation de ce film avec ce groupe de 10 jeunes, il y a eu des moments où le sujet a totalement débordé et où on a même dû faire un peu une pause sur la réalisation du film, l'écriture du film en tant que tel, parce que là on était en train de parler de choses qui, pour certains d'entre elles et eux, pouvaient être assez sensibles et où la réalisation d'un film, c'était aussi un moment d'expression de choses que ces jeunes vivaient de manière très personnelle et qui était l'occasion pour eux de pouvoir servir d'exutoire quelque part.
Et du coup, alors sur les ateliers, vous avez une attention vraiment au fond et vous n'êtes pas uniquement. Enfin, ça pourrait être aussi, et peut-être que vous le faites par ailleurs, une animation un peu classique de faire une fiction dans le cadre d'un centre de loisirs ou passer une semaine. Voilà, ça c'est des choses que vous faites aussi, j'imagine. Mais en tout cas, vous avez une attention à proposer quelque chose qui a du sens pour les publics auxquels vous vous adressez.
Tout à fait. Et là, c'est vrai que ça avait d'autant plus de sens que Rebecca Roland, donc, qui travaille à la mission locale et qui nous a proposé de faire cet atelier, avait à cœur de nous dire « Bon, si je vous propose aussi ce sujet de l'engagement, c'est que je sais que c'est quelque chose qui va faire un écho particulier par rapport à ce que, justement, même en tant que structure mission locale, on peut être amené à demander à ces jeunes-là et que ça permettait peut-être pour eux de faire preuve, pardon pour l'anglicisme, et d'un peu d'empowerment par rapport à ce sujet. » Donc là, on y est allé de manière assez franche. Mais parfois, ça peut être des ateliers qui sont plus franchement productifs.
Un peu ludique aussi, quoi.
Et tout à fait ludique. Le dernier atelier en date a été fait à l'école primaire de la Courtine. Et c'était la réalisation donc d'un film d'animation sur base d'une histoire qui avait été faite par ses enfants, accompagnée par une autrice. Et là, c'était beaucoup plus barré comme ambiance.
Donc, on invite toutes les structures qui ont envie de faire de la vidéo à contacter Télé 1000 Vaches. Il y a toujours moyen de bricoler quelque chose qui est tout le monde, c'est ça?
A priori, oui, c'est l'idée.
Donc, il y a une adresse particulière, j'imagine?
Oui, donc je la rappelle, c'est atelier@télé1000vaches.net ou au téléphone.
Nouveau jingle, on va passer à la troisième séquence de cette émission et on va parler un petit peu, on va rentrer dans le média parce que quand même Télé 1000 Vaches, c'est quand même, sa raison d'être, c'est quand même d'être un média, même si on a compris qu'elle faisait aussi, qu'elle avait d'autres activités. Et donc on va commencer par parler des sujets qui sont sortis récemment, à peu près récemment, ou à venir. Voilà. Mais dans un premier temps, on va parler de ceux qui sont sortis. Non,
le tout premier est déjà sorti, voilà. Et le second, c'est un projet, c'est un sujet à venir.
D'accord. Ouais. Alors, qui on va parler de quoi?
Oui, alors nous, on se positionne en tant que média sur des sujets plutôt écologiques ou sociaux. Parfois, les deux sont liés, enfin, même la plupart du temps. Mais voilà, là, en l'occurrence, c'est vraiment un sujet écologique au sens strict, parce que ça concerne à la fois la transition écologique, donc le fait de rouler en voiture électrique, le tout électrique pour remplacer les énergies carbone, mais aussi l'impact écologique que cette industrie écologique amène. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les sujets qui portent en eux des contradictions, qui traversent les contradictions que traverse la société. Et là, le lithium, c'est parfait, parce que c'est à la fois écologique et à la fois ça ne l'est pas. Donc voilà. Donc on s'est amusé à aller interviewer faire un micro-trottoir en fait dans la ville des Chassières où il y a le plus grand projet minier d'Europe pour l'instant.
Alors, Chassières, c'est situé
où? C'est dans l'Allier, mais en fait ça suit une faille sismique en fait qui est remplie de minéraux. D'ailleurs il y avait de l'uranium aussi. Qui va jusqu'en Creuse, qui va même jusqu'au le plateau de 1000 Vaches, en tout cas dans les environs, avec notamment en Bazac, qui est la seule mairie qui a bien voulu nous répondre sur ce sujet. Parce que alors le micro-trottoir, lui, il sert à amener un peu de contradiction dans tout ça, parce que en général, les écologistes, donc en l'occurrence Stop Mine Creuse ou Stop Mine Allier, sont toujours friands de parler aux médias pour communiquer. En revanche, c'est beaucoup plus dur pour par exemple pour Imerys, qui nous a baladé un peu, qui nous a promis que voilà, qui nous renvoie vers un service de com et qui nous dit qu'il est fantôme en fait, on n'y répond jamais, etc. On est allé sur place, ils n'ont pas voulu nous ouvrir les portes. Ou BRGM, je suis pas sûr que ce soit le bon acronyme, mais en tout cas ceux qui font la prospection des sols, c'est vraiment l'État hein, directement. Ça. Bon, alors ils n'ont pas voulu du tout nous répondre non plus malgré de nombreuses relances. Donc pour apporter la contradiction, c'était bien ce micro-trottoir-là, parce que les gens des Chassières sont pour le projet. Et Chassières, en fait, c'est une ville minière depuis très très longtemps, donc ils sont toujours baignés dans les mines, donc presque pour eux, enfin les mines rouvrent à Chassières, donc c'était plutôt ça l'ambiance. Et puis c'est élu dans Bazac, qui donc une mairie sur le plateau, ou pas loin du plateau, c'est une mairie favorable à l'ouverture du lithium, et c'est d'ailleurs déjà une mairie qui avait de l'uranium. On peut l'écouter d'ailleurs si vous voulez. Il s'appelle Raphaël Solens Esquera.
Puisque c'est comme ça qu'il faut du lithium, nous préférons, dans une politique de développement durable, que cela puisse se faire ici, en Bazac, ou dans un pays développé en Europe, que dans des pays du tiers-monde, où aucun des trois piliers de développement durable sera respecté. Si on le fait ici, au moins, ça se fera dans des conditions, surtout en Bazac, qui a déjà eu un passé où il y a eu l'exploitation d'uranium, qui a donné beaucoup de richesses à l'économie, mais qu'en même temps, il y a eu quelques déconvenues. Voilà. Parce qu'il y a pas mal de petits cancers, des thyroïdes et tout ça qui sont venus aussi.
Voilà, donc un petit extrait d'un interview donc, d'un élu, c'est ça, dans Bazac ?
C'est un élu affilié à l'écologie de la mairie dans Bazac, quoi, qui est quelqu'un qui travaille aussi dans, dans l'écologie. Dans le carbone, il fait des mesures de consommation carbone à travers l'Europe. Ouais. Et effectivement, il va dans les mines, comme il dit, hein, les mines du Maroc. Et c'est l'argument principal en fait de ceux qui veulent développer le lithium en Europe. C'est ah oui, on a besoin de lithium. On a besoin de lithium pour les ordinateurs. Enfin, c'est pour les batteries. Hein, donc, on en a besoin partout en fait. Notre lithium coule dans nos veines hein, en tant qu'occidentaux. C'est le hiatus, quoi. C'est-à-dire ce monsieur dit, ben, on va le faire ici, au moins, déjà, c'est chez nous. C'est pas, parce que le lithium, c'est la plupart, pour l'instant, est fabriqué en Australie et au Chili, et sur des terres autochtones, hein, à qui on ne demande pas trop leur avis, ou de manière un peu spéciale, avec toutes les destructions écologiques, puis culturelles, et sociales qu'on connaît. Hein. Donc, c'est l'argument, c'est-à-dire, on a besoin de lithium, beaucoup, donc est-ce qu'on continue à le faire sur les terres autochtones, ou est-ce qu'on prend notre part, en gros ? Et c'est là où les écologistes sont un peu... bah, ils ont des arguments aussi, hein, mais c'est là où ils sont un peu acculés. C'est-à-dire, eux-mêmes ont besoin de lithium, mais ne veulent pas de lithium sur leur sol. Donc, voilà, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas parler d'écologie coloniale ? C'est-à-dire, not in my backyard, ce fameux truc. L'argument des écologistes, ça va plutôt être de dire, bah, en fait, il faudrait la sobriété. Et tant qu'il n'y a pas de sobriété, nous, on ne veut pas être d'accord sur ces projets-là. J'oubliais quelqu'un qui intervient dans le film aussi, qui est Laurent Richard, qui nous apporte aussi des éléments un peu historiques sur comment les mines arrivent, notamment la mine en Creuse, là j'ai perdu le nom, mais une mine qui a fermé, et qui, quand une mine ferme, alors c'est très joli pendant 30 ans, mais une fois qu'elle ferme, bah, y a 1500 emplois en moins, des ruines, et puis de la destruction, des cancers, de la thyroïde en l'occurrence pour le lithium, voilà, Laurent Richard, pour l'uranium, pardon.
Alors ce sujet, si on veut le voir, comment on va sur le site de Télé 1000 Vaches ?
Eh bien oui, c'est dans la case reportage. Voilà, on a plusieurs cases à Télé 1000 Vaches. Il y a la case brève, qui sont des vidéos de moins de 5 minutes, et la case reportage, qui peuvent aller de 8, 10, 20 minutes.
Et si on est, par exemple, une association écologiste ou une pro-lithium, qu'on a envie de diffuser ce film, comment on fait ?
Ah ben, on envoie un mail et puis on demande si on peut le diffuser. Et puis éventuellement, même si c'est pas trop loin, on peut se déplacer pour organiser des débats.
Alors je peux même préciser qu'on n'a même pas besoin de demander, c'est-à-dire que tous les films de Télé 1000 Vaches sont librement diffusables. Après, on est toujours content de savoir que nos films sont montrés ailleurs, mais la permission est déjà donnée d'avance.
Question sous licence Creative Commons.
C'est ça, oui. Tant que ce n'est pas commercial, voilà.
Eh bien, on va se préparer pour le sujet d'après. On va passer à un deuxième sujet. Donc, il s'agit des subventions. On va parler subventions. On a fait une émission avec IPNS il n'y a pas très longtemps. On avait déjà parlé de ce sujet et je crois que vous avancez aussi de votre côté en tant que média sur le sujet des subventions aux associations locales.
Oui, en fait, ça fait 2 ans. Bon, moi, je viens d'arriver dans l'équipe, mais ça fait 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, que Télé 1000 Vaches rencontre des difficultés pour obtenir des subventions qu'elle obtenait toujours de façon assez fluide. Et donc on s'est dit qu'il fallait peut-être qu'on fasse un sujet là-dessus. À l'origine, on est parti pour faire un reportage assez court pour expliquer voilà, quelles difficultés rencontrent les associations du plateau de 1000 Vaches et en particulier des médias plutôt associatifs comme IPNS, mais aussi la Trousse Corrézienne donc en Corrèze, qui rencontrent donc les mêmes problèmes que nous par rapport aux subventions. Et en fait, au fil du sujet, au fur et à mesure des rencontres, des interviews, on s'est rendu compte que le problème était beaucoup plus large que ça, que c'était national en fait, que c'était à l'échelle nationale, pas uniquement dans la région. Et après avoir récolté plusieurs témoignages d'associations, pas que pour le coup des médias associatifs, mais des associations qui travaillent autant qui créent des ateliers pour que les gens soient plus autonomes dans la réparation mécanique, pour la couture, des merceries associatives, enfin vraiment la culture au sens large. On est en train, en fait, parce que le sujet n'est pas sorti, c'est en cours, on est en train d'interviewer des personnes qui sont capables de nous éclairer là-dessus, de nous donner des pistes d'explication, de nous donner un contexte juridique, historique. Et donc là, encore une fois, c'est davantage à l'échelle nationale. Et donc, en fait, on est parti sur un sujet beaucoup plus long que prévu. Donc, le sujet est toujours en cours de tournage. Ça fait 2 mois qu'on travaille dessus avec Franck. Et j'ai choisi en particulier un extrait d'une présidente d'une association qui est dans le Tarn-et-Garonne et qui justement tient cette mercerie associative dont je parlais à l'instant et qui résume un peu toute la situation.
Allez, on l'écoute.
Tout a commencé en mars 2023. On avait un gros enjeu de financer un poste qui n'était plus en contrat aidé depuis déjà 1 an. Et on avait un peu éclusé la trésorerie qu'on avait pour financer ce poste. Et on comptait sur un poste FONGEP et des aides, des appels à projets, etc. Et en fait, à partir de mars, on a beaucoup mobilisé d'énergie sur des dossiers. Et tout était refusé. Ça, il n'y a rien qui fonctionnait. Du coup, grosse interrogation. Je me suis même dit, moi, il faut que je quitte l'asso parce que mon travail, il ne vaut plus rien. À chaque fois que je monte un truc, ça foire. Et jusqu'à ce que, en juin, on ait la chance en fait, d'avoir une partenaire qui nous dise en off ce qui se passait. Donc, cette partenaire me dit, voilà, j'en peux plus. Tout le monde le sait, tous vos partenaires le savent, mais personne ne vous dit rien. Les renseignements généraux ont ordonné à la préfecture que la préfecture ordonne au service de l'État de ne plus travailler avec vous parce que vous auriez des anarchistes dans vos adhérents. Donc ça, c'est du off.
Voilà, c'est du off. Alors comment on travaille avec du off, justement? J'imagine que vous êtes souvent confronté à ce problème, entre guillemets. C'est-à-dire que, vu que c'est des choses qui ont l'air de se passer un peu de manière non officielle, enfin même pas que un peu, complètement de manière non officielle, comment on fait pour travailler ça en vidéo?
C'est une très bonne question. Pour l'instant, on a réussi à obtenir des témoignages quand même plutôt en on, c'est-à-dire donc face caméra, quoi, pas anonyme. Mais après, bah, quand les personnes veulent uniquement nous parler en off, c'est aussi une matière qu'on peut travailler, qu'on peut utiliser, qui peut nous permettre de rebondir, de nous orienter vers des pistes plus ou moins précises. Donc voilà, c'est toujours quand même très utile et ça permet de nourrir le reportage indirectement.
Donc là, on est vraiment dans l'investigation pure et dure, parce que vous attrapez un sujet qui est quand même, alors non, qui vous concerne directement, mais pas que. On a bien compris que c'était beaucoup plus large que Télé 1000 vaches. Mais, et puis, il faut chercher vraiment des informations, recouper, faire un vrai travail de journalisme.
Oui, là, c'est une vraie enquête dans laquelle on s'est lancé. Mais en tout cas, pour réexpliquer un peu le sujet, dans tous les témoignages qu'on a entendus, en fait, c'est toujours la même chose. Donc, c'est ce que la présidente de l'asso vient d'expliquer. Des associations qui, auparavant, avaient toujours des subventions, et d'un coup, des coupes de subventions, des refus, sans aucune explication. Et à chaque fois, quand même, ces personnes-là arrivent, puisqu'elles ont toujours été en contact depuis de nombreuses années avec des agents de l'État, qui étaient du coup qui leur expliquaient. En fait, c'était un peu l'intermédiaire entre le ministère de la Culture et les associations, justement, pour les dossiers de subvention, ils les aidaient. Et donc, ces personnes-là leur disent en off, comme vient de dire, comme on l'a entendu dans l'extrait, leur donnent enfin une explication. Et là, à chaque fois, en fait, l'explication, c'est. En gros, vous êtes trop à gauche. Clairement, c'est ça. Vous êtes trop proche des soulèvements de la terre, vous êtes éco-terroriste, vous êtes anarchiste. Et en fait, l'explication est assez, paraît assez hallucinante parce que ce sont des explications à titre privé, quoi. C'est pas, il n'y a aucun rapport avec l'association ou alors.
En tout cas, ce n'est pas dit. La ligne éditoriale, par exemple.
Bon, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, voilà, ça va au-delà de ça et ça paraît quand même très inquiétant puisque c'est vraiment des renseignements sur les personnes, leurs activités. Vous avez participé à une manifestation des Gilets jaunes, enfin ce genre de choses complètement lunaires, quoi. Et donc c'est pour ça que ça nous a poussé aussi à creuser davantage, à comprendre comment c'est possible, dans quel cadre législatif ça s'inscrit. On a plusieurs pistes d'explication. Hier, j'étais à Paris pour justement un tournage et pour faire l'interview d'une avocate qui est spécialisée dans ces attaques aux libertés associatives, parce qu'il n'y a pas que les coupes de subventions, il y a aussi les refus d'agrément, des intimidations, qui peuvent mener aussi à de l'autocensure pour des associations. Elles hésitent à signer un appel à manifester. Enfin, vraiment, en fait, tout ce qui est de l'ordre de troubles de l'ordre public peut ensuite être imputé aux associations. C'est assez vertigineux et assez effrayant. Donc, en tout cas, on continue de creuser et d'approfondir en espérant pouvoir publier le sujet à l'automne.
À l'automne, alors voilà, c'était ma prochaine question. Donc plutôt, on prévoit ça vers l'automne, le temps de bien...
L'idéal serait cet été, mais on va faire de notre mieux, voilà.
Eh bien, on a hâte de pouvoir visionner ça, et puis pouvoir, ça pourra être un support à débat, à action, à échange aussi d'informations sur ce sujet. Merci Manon, on va passer peut-être à un autre sujet. Alors, de quoi vous voulez parler ?
On va parler de l'IVG en Creuse.
Là, un sujet qui est sorti la semaine dernière, donc qui est tout frais. Une brève, donc comme disait Florent tout à l'heure, c'est un sujet assez court de moins de 5 minutes.
Avec une forme particulière, je crois.
Oui, une charte graphique particulière, donc on peut facilement repérer les brèves. Elles ont une bulle télémine vache en haut, des sous-titres et un format carré.
C'est un format qui a été pensé pour les réseaux sociaux ?
Un peu, oui, comme pour Instagram. Comme brut un peu. Et donc là, le sujet, on l'a sorti un peu tard, mais à l'origine, c'était notre accroche actu, on va dire, était liée à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, donc le 8 mars dernier. Et on a voulu faire un sujet sur l'IVG local. On s'est renseigné un peu sur les conditions d'accès à l'IVG dans le département. On s'est rendu compte qu'il y avait... uniquement deux médecins généralistes qui pratiquaient des IVG instrumentales, donc par aspiration, et médicamenteuses, c'était une sage-femme, donc au total, elles étaient trois dans tout le département. J'ai fait ça avec Noémie, une stagiaire qui est venue trois semaines, donc elle a été super efficace, et qui est en plus aspirante journaliste. Donc, en gros, on a commencé à s'intéresser à ce sujet-là en se posant la question est-ce que les conditions d'accès sont bonnes en Creuse, sachant qu'il n'y a que trois praticiennes. On allait les voir, les deux, donc les deux médecins généralistes qui ne sont pas gynécologues. Et en fait, on s'est rendu compte que l'angle ne tenait pas, qu'en fait, c'était juste... les conditions d'accès étaient très bonnes, enfin plutôt bonnes, mais le problème c'était plutôt le manque de soutien des gynécologues qui étaient totalement désengagés de cette cause en fait, qui redonnait avec plaisir la charge de ces IVG à ces médecins généralistes.
Donc on va écouter un extrait qui en parle.
Le centre d'orthogénie de l'hôpital de Guéret a toujours été tenu par des médecins généralistes. Les gynécologues spécialistes se sont toujours désengagés de cette activité. Voilà, nous, on est les héritières d'un long passé de médecins généralistes engagés dans l'avortement.
On peut penser qu'en Creuse, comme c'est assez difficile d'avoir accès à un médecin dans plein de spécialités, ça pourrait être difficile d'avoir accès à l'IVG, mais c'est vrai que nous, finalement, on arrive à tenir les délais.
Ce que l'on pourrait souhaiter, c'est que les spécialistes, les gynécologues s'impliquent un petit peu plus à nos côtés et puissent nous aider plutôt que nous repousser quand on a besoin d'aide. C'est vraiment moi le souhait le plus important que je puisse avoir.
Mais peut-être juste un petit commentaire, parce que moi, ça m'a sidéré, hein, je n'ai pas participé à ce reportage, mais en voyant votre travail, en entendant ce qu'on vient d'entendre là, je trouve ça sidérant que les gynécologues ne s'intéressent pas à l'IVG et que ce soit des médecins généralistes qui le fassent. Ça dit quelque chose. Enfin, je trouve que c'est assez énorme. Et je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais je tombe de ma chaise, moi, à chaque fois que je rentre en ça. Voilà.
Oui, mais dans la brève, on peut aussi apprendre que, effectivement, l'IVG n'est pas du tout valorisé. C'est un acte très peu rentable. Donc, il y a aussi cette question capitaliste, quoi, de la santé. À interroger, et toujours cette clause de conscience qui pose problème et qui est un obstacle à l'accès à l'IVG en France.
Voilà, bah pour en savoir plus, allez voir cette brève. Elle est, comme tous les reportages dont on parle, évidemment, sur le site. Alors, il y a un petit encart spécial pour les brèves sur la page d'accueil dès qu'on arrive, là, donc on les voit bien en général. Et puis on va, oui.
Et sur les réseaux sociaux, donc pour préciser les réseaux sociaux sur lesquels Télé1000Vaches se trouve, il y a Mastodon, il y a Facebook, il y a X, il y a Instagram, et je crois avoir fait le tour. Et YouTube, pardon, YouTube récemment. Et pour les personnes qui sont encore, comment dire, passionnées des flux RSS, eh bien il y a la possibilité aussi de s'abonner à nos publications de cette manière.
C'est gentil de penser à nos aînés.
Et on n'a juste pas parlé de la liste de diffusion par courrier électronique, hein, qui est quand même le vecteur le plus simple et le plus accessible.
Donc il faut s'inscrire. Voilà. Sur le site, je crois qu'on peut le faire directement, c'est
ça ? On peut le faire, il y a même un joli petit bandeau vert qui vous incite à le faire dès que vous y allez.
Voilà, et on reçoit quoi en fait ? On reçoit une lettre par mois ?
On reçoit un message qui annonce tout. Les nouveaux reportages et des annonces, par exemple, on va en parler tout à l'heure, l'Assemblée Générale qui a très bientôt lieu, ben on s'apprête à renvoyer un message à ce sujet.
Très bien. Alors on va passer à un nouveau sujet, parce que ça ne manque pas. On a une longue liste, alors on ne pourra peut-être pas parler de tous les sujets dont on avait prévu de parler, le temps passe. Mais de toute façon, il y aura d'autres émissions de Télé1000Vaches, on pourra toujours se rattraper par la suite. Oui, Arthur, alors, tu voulais nous présenter un sujet sur lequel tu as travaillé, c'est ça ?
Oui, exactement. Bah, on a entendu parler à la médiathèque de Limoges d'une exposition qui traitait de la cuisine des pieds noirs, en fait, qui présentait ça un peu sous un angle folklorique où on montre les bons plats des pieds noirs à l'époque de l'Algérie française, avec des photos aussi de la population qui s'entend bien, vient ensemble et peu importe les. Enfin, ouais. Un grand vivre ensemble, tout à fait fluide et sans aucune contrainte. Et ça nous a mis la puce à l'oreille, du coup on en a parlé, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de voir les réactions des gens, des usagers, de la médiathèque, ce qu'ils avaient à dire. Et en creusant un petit peu, on s'apercevait qu'en fait cette association qui organisait l'exposition était très proche de l'extrême droite, qui est basée à Perpignan, donc avec une mairie Rassemblement National, où ils font plein de choses, plein d'événements, des commémorations par rapport à l'Algérie française. Et que cet asso est totalement nostalgique en fait de cette époque coloniale. Donc on a interviewé un peu les organisateurs de cette association, les responsables du cercle algérianiste, qu'elle s'appelle comme ça, à Limoges. Et puis un élu aussi qui a souhaité nous parler de sa vision des choses, en plus de la parole du coup d'un usager de la médiathèque assez calée sur les questions coloniales, qui a bien voulu nous expliquer aussi qu'est-ce qu'il y avait de colonial derrière finalement des... ce qui paraît être des belles images un peu sympas, une bonne cuisine, un truc assez bon enfant, quoi. Et en fait, on voit beaucoup de termes de colonialisme, en fait, dans cette exposition. Peut-être on peut entendre.
Allez, on écoute un extrait.
L'Algérie, il n'y avait personne en Algérie quand on y a été en 1830. Il y avait des Arabes, il y avait des Juifs, il y avait tout un tas de peuples, mais il n'y avait pas de... L'Algérie n'existait pas.
On a choisi cette exposition pour mettre à l'honneur ces Français d'Algérie qui ont vécu là-bas.
C'est des photos souriantes où les populations sont mélangées et où une histoire commune s'est tissée entre les populations venant de la France et les populations autochtones. Et en fait, on passe complètement à la trappe le fait d'une présence, d'un peuplement, d'une appropriation coloniale méthodique par la spoliation, par la guerre, par l'acculturation et par tout ce que vous pouvez imaginer, quoi.
Donc voilà, finalement, derrière les belles images, on voit qu'il y a quand même énormément de violence. Et puis surtout, le but de cette petite vidéo, finalement assez courte, c'est aussi d'évoquer ce qu'est la situation à Limoges par rapport à l'extrême droite. Je sais que Télé Mille Vaches, je crois, avait déjà fait un petit sujet par rapport à la venue de Zemmour qui avait été accueilli en grande pompe à la mairie de Limoges. Et c'est des nouvelles un peu inquiétantes qu'on voit en plus de cette exposition qui paye pas de mine, mais qui est bien acceptée en général. Qui montre un peu le climat politique à Limoges et ça peut-être son penchement vers la droite, voire l'extrême droite. En tout cas, c'est la question qu'on se pose sans y avoir de réponse.
Alors pour être précis, je pense pas que Zemmour avait pas été invité en grande pompe à la mairie. Hein, on peut pas dire les choses comme ça.
T'es accueilli.
Mais en tout cas, il est venu à Limoges. Oui.
Et aussi, il y a des faits divers, enfin, un peu, qui font froid dans le dos ces dernières semaines, avec carrément des milices en fait, qui se targuent d'une esthétique néo-nazie et qui tapent en fait, des poseurs d'affiches pour l'écologie, par exemple. Ça s'est arrivé là, il y a quelques jours, quelques semaines à Limoges, et ça se répète.
D'accord, donc Télé Mille Vaches va quand même pas mal du côté de Limoges. Ça, c'est peut-être assez récent.
Oui, c'est assez nouveau, mais les pieds à Limoges. Parce qu'il s'y passe des choses qui nous interpellent.
C'est la grande ville du coin. Très bien. Alors, on va peut-être. Le temps passe. On va parler peut-être de quelque chose qui va arriver bientôt. Alors, Télé Mille Vaches, c'est une télévision associative. Je ne sais plus si on l'a dit au début, mais c'est important. Et donc, comme toute association, elle doit faire tous les ans son assemblée générale. Et ça va être bientôt.
C'est lundi prochain, 29 avril, ce sera à 18h à la médiathèque de Royard de Vassivière. Donc de 18h à en gros 20h, on fait l'assemblée générale en tant que telle. On va en parler tout de suite. Et puis ensuite, on aura un apéro dînatoire, comme on dit, pour causer un petit peu. Puis deux projections de deux films dont on va parler tout de suite. Et on viendra sur l'AG après. J'espère qu'on aura le temps. Et deux films qui ont la particularité d'avoir été faits, un de façon bénévole et l'autre par quelqu'un qui est toujours en service civique. Et donc Russell va pouvoir nous parler de son film sur le Brexit.
Hello Brexit.
Hello Russell. Alors, est-ce qu'on commence par l'extrait peut-être ?
Oui, absolument, c'est ça.
C'est parti.
Salut, ça c'est moi, Russell, Russell, si vous avez un accent. Je suis un Anglais installé sur le plateau en 2019 avec Cécile, ma copine creusoise, et notre fils, Évariste. Mais d'abord, un peu de contexte.
On Monday, I will commence the process set out under our referendum act.
Weeks and months of argument and dispute and all the rest of it, the British people have spoken and the answer is, we're out.
Ok, soyons sérieux. En fait, c'est un sujet très complexe. Il n'y a que des Anglais anti-Brexit en France. Voici, Neil. Il a voté pour le Brexit. Je lui demandais pourquoi.
Voilà, donc toujours dans l'actualité Télé Mille Vaches, toujours on saute sur l'actualité chaude, et là c'est le Brexit.
Voilà.
On peut raconter peut-être un peu la jeunesse de ce film.
On peut avoir être trop sérieux tout le temps, mais il faut rigoler aux Anglais de temps en temps, avec tous les problèmes locaux.
Tu as commencé à y travailler quand alors à ce film, Russell ?
Donc j'ai commencé à faire ce film en 2020. En fait, c'était un des premiers projets. Je suis venu à Télé Mille Vaches et discuter quand j'ai vraiment parlé très très peu de français. Vous allez écouter ou entendre quand vous allez voir le reportage. Mais oui, donc c'était un projet. Donc en 2020, c'était avant que le Brexit était enacté. Donc ça veut dire que tout le monde a voté pour le Brexit. Vous avez entendu l'ancien Premier ministre David Cameron qui a annoncé qu'il va invoquer le Brexit. Donc voilà, je suis venu de discuter les Anglais, notre relation complexe avec le Brexit. Parce qu'en fait, ce qui était très proche de mon cœur, c'était comment c'était très facile de rigoler à propos de qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre, comment on les a tiré un balle dans le pied, comment on ne peut pas comprendre. Mais c'était une situation très, très, très complexe qui a produit le Brexit. Donc, moi, je suis rendu visite à plusieurs Anglais de mon petit quartier que, à la carte de Folle-Montagne. C'était il y a un mois qui a voté contre le Brexit, un autre couple avec une Anglaise et un Français, elle a voté contre le Brexit, et un autre monsieur qui va faire sa retraite ici, qui a voté pour le Brexit. Je pense comme ça, on peut montrer les plusieurs raisons que ça se produise et comment c'est pas juste un truc qui est noir et blanc, pas du tout. Et voilà, un petit peu drôle, un petit peu sérieux, un peu comme moi, comme j'aime bien l'être.
On l'a entendu un peu dans l'extrait, effectivement. Ça donne envie d'en écouter beaucoup plus. Donc, ça sera ce 29 avril, la grande première, avant ou après l'AG.
Oui, donc c'est le point commun entre ces deux films. Hein. C'est une projection inédite, quoi. Enfin, en tout cas, ça sera la première occasion de le voir avant même qu'il soit sur Internet. Le Brexit en toute fin de soirée. Donc, les projections commencent donc sur le coup de 8h30, 9h moins le quart, quelque chose comme ça. Et on peut parler du film précédent, qui sera juste avant ou,
Oui, si tu veux parler Farage.
Et donc un deuxième film qui sera... donc là, c'était Le Brexit et nous, et maintenant, on va parler de Fargebois ou Le débat confisqué. Alors, le réalisateur n'est pas là pour en parler, donc je vais essayer de le faire un petit peu rapidement à sa place, et puis on a un extrait à écouter aussi, qui est même plutôt un petit montage. Donc il s'agit de la série Fargebois à Égletons, qui est déjà une énorme scierie industrielle et qui projette de s'étendre et de devenir la plus grosse scierie de France. Et comme son nom l'indique, le constat qui a été fait sur place, hein, et puis par Achille qui a réalisé ce reportage, c'est que un projet qui mériterait d'être débattu et discuté est plutôt en train de passer en force. Et même les difficultés que Achille a eues pour rencontrer à la fois les élus ou les responsables de l'entreprise en témoignent. Et donc je vous propose qu'on commence par écouter l'extrait.
Du coup, je vous ai appelé parce qu'on prépare un reportage sur l'extension de la scierie. Et on se demandait si quelqu'un chez vous serait prêt à répondre à une interview pour expliquer le projet d'agrandissement. Puis répondre à quelques questions.
Qu'est-ce qui vous motive à faire un reportage?
Eh bien, parce que c'est quelque chose qui a l'air d'être important et de préoccuper la population sur place. Donc on fait du journalisme, hein, tout simplement. Hein.
Ça marche. Je vois avec mon service de com comment on peut s'organiser et puis pour caler ça début janvier.
Malgré sa promesse, Monsieur Larue ne nous a jamais recontactés et ne répond plus à nos appels.
Le résultat probable de ce à quoi on va assister si cet établissement... va au bout de son projet, c'est un accroissement de la pression de coupe et donc une perpétuation de cette forêt composée d'arbres jeunes, de faible diamètre et malheureusement très peu diversifiée, très peu accueillante pour la faune, la flore. Donc c'est en fait, on n'est pas réellement face à une forêt.
Et le premier souhait que nous aurions voulu voir abouti, c'est que M. Pistot vienne en conseil communautaire nous présenter son projet. Voilà, j'ai appris plus de choses aujourd'hui qu'en réunion de conseil communautaire et je trouve ça un peu dommageable pour les élus du territoire.
C'est vrai qu'on aurait aimé être pris au sérieux en notre... qualité d'élu et que un réel dialogue soit mis en place avec l'ensemble des élus et pas uniquement avec le bureau exécutif de la communauté de communes.
Parce que... Alors, c'est une vente qui a été très facile, hein. Très très facile. Ah oui, oui, oui. Alors, Charles Perret a été formidable, il a énormément coopéré avec Philippe Pistot. On s'est très bien entendu, hein. Donc tout le monde est très content. Alors je signe, hein. Tout le monde est d'accord. Super.
Et je voulais juste rebondir un peu sur ce qu'on entend au début là, avec le refus de participer au débat, enfin en tout cas à Achille. Et c'est vraiment général. Là, je parlais tout à l'heure d'Imeris, qui a aussi, nous, c'est toujours la même technique. Hein, ils te renvoient au service com et en fait, ils te répondent jamais. Ils te ghostent. Il y a Biocil aussi qui a refusé à participer à un débat. En fait, c'est ça qui est un peu étrange en ce moment, c'est que tous ces gens-là ne veulent pas participer au débat, font leurs choses de manière autoritaire quasiment. Et en même temps, on nous fait des leçons de démocratie en nous enlevant les subventions. Voilà, c'est un peu paradoxal.
En tout cas, Télé Mille Vaches sera toujours là pour leur rappeler qu'il faut participer au débat, qu'on ne taira pas les sujets qui fâchent. Alors Franck, on va peut-être conclure avec un petit mot sur l'Assemblée Générale elle-même.
Il nous reste 2 minutes, combien ?
Ouais, même pas, 1 minute 30.
Oui, bref. Oui, alors dans cette AG, l'invitation qu'on a faite, c'est l'occasion rêvée pour venir un petit peu connaître un peu les entrailles de Télé Mille Vaches et d'en discuter, d'en débattre. On se trouve dans une situation particulière à Télé Mille Vaches. Lors de la dernière AG, on se posait la question si on devait courber les chines ou foncer par rapport à la situation dans laquelle on se trouve, avec des subventions au moins, enfin voilà, une espèce de faiblesse structurelle dans notre budget notamment et dans notre difficulté politique à faire notre travail tout simplement. Et on a des nouvelles, depuis un an il s'est passé des choses, on a décidé de créer un poste de journaliste occupé par Manon aujourd'hui. Et on a différents projets, donc on a plutôt décidé de foncer plutôt que de courber les chines. Et donc l'invitation, elle est surtout dans ce sens-là, c'est-à-dire venez parler avec nous de ce qu'on fait, de comment on le fait, des risques qu'on est en train de prendre. C'est l'occasion rêvée de le faire, en plus de voir deux films passionnants et inédits de Télé Mille Vaches et de casser la croûte avec nous.
Voilà, donc ça va être tout sauf une AG plan-plan où on va juste regarder des bilans satisfaisants. Et
c'est ça, on aura un petit quart d'heure de bilan, mais ça ira très très vite. Et donc on rappelle que c'est lundi 29 avril à 18h pour l'AG à la médiathèque de Royère de Vassivière. Et merci à eux de nous prêter les locaux.
Eh ben, merci à eux et puis merci à vous donc à tous qui étaient tous et toutes qui étaient autour de la table pour cette grande première de l'émission de Télé Mille Vaches sur Radio Vassivière. On se retrouve, on ne s'est pas dit exactement quand, bientôt, dans 2 mois je crois, c'est ça à peu près, pour une nouvelle émission. On parlera un peu des sujets qui ont émergé depuis, ou on reviendra sur des sujets dont on a peut-être déjà parlé aujourd'hui. Voilà, ça sera l'occasion un peu de prendre des nouvelles et d'en donner. Merci à tous, merci à toutes. Salut.